France Culture.
Pour vous, quel bruit fait la neige ?
En toute honnêteté, c'est une question que je ne m'étais jamais posée dans ma vie.
Pour moi, c'est le matin quand je me lève et qu'il a neigé, c'est la touffeur. C'est-à-dire on a l'impression que le monde est ouaté. Et quand je marche dessus, c'est le bruit d'un biscuit.
C'est le plus beau son qu'on puisse entendre. Ce petit sifflement de l'enneigeur qui produit de la neige et qui annonce l'hiver, qui est une période que j'adore. Un paquet d'émotions, la joie, même des fois chez les enfants un peu l'excitation. Ça reste la chose encore la plus magique que je puisse connaître. Dès qu'il y a une chute de neige, tout le monde a la banane.
Neige, écho d'une disparition. Quentin Teneau, Agnès Catou.
Après, la neige, ça peut être plein de bruits différents. En gros, le bruit qui va faire la neige, ça dépend de sa microstructure. Et une neige gelée, une neige de regel, ça n'a pas le même bruit qu'une neige poudreuse sous les skis ou une neige quick-quick dans un couloir en alpiniste.
Le crissement sous les bottes, magnifique.
Troisième épisode, poudre à canon.
Alors on m'a donné rendez-vous quelque part en Haute-Savoie, je ne peux pas dire où, devant une église, pour un brief avant une action militante qui se tiendra au Grand Bornand à l'occasion de la Coupe du Monde de biathlon. Il y a une petite neige fine qui tombe, malgré le ciel bleu qui apparaît.
On commence un petit tour météo.
La météo, ouais, pour nous. En tout cas, la vraie météo, elle est top. Non mais en vrai, c'est bon, là, c'est fini. Ça va rester comme ça. Demain, cet après-midi, il y a des éclaircies. Donc, c'est des belles images du Grand Bornand enneigé.
Enneigé ?
Ah bah ouais, ça va être tout blanc.
Saupoudré.
Ah, je sais pas si... Non, à Morzine, c'était vraiment blanc. À mon avis, au Grand Bornand, ça va être vraiment blanc.
Moi, chez moi, il y avait vraiment beaucoup de neige.
Ah ouais, t'avais rien.
Il y avait 1 cm de neige.
Ah ouais, nous, à Morzine, on avait ça. Ouais.
En fait, on parlait pas de la vraie météo. Alors, météo.
Allez, tu vas commencer.
Dédé, moi aussi, ça va. J'ai plutôt bien dormi. Donc, en forme pour l'action. À toi.
Rima, moi aussi, au taquet, c'est ma première action, donc je suis complètement excitée. Et un tout petit peu inquiète, mais normal quoi.
Oui.
C'est une première action. Non, mais j'ai confiance.
L'hiver dernier, on a mis la fille de ma meilleure amie sur les skis, elle a 3 ans, et j'ai pleuré en me disant que l'âge où nous, on s'est épanouis dans le snowboard, sa mère et moi, et bah, quand elle aurait cet âge-là, il n'y aurait plus de neige, là où on faisait du freeride.
Je vais faire un mini brief, alors on en a déjà...
Je m'appelle Lara, je suis guide du patrimoine et médiatrice culturelle indépendante. Donc demain, c'est la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. On va déployer une banderole pour rappeler l'altitude du Grand Bornand, qui est donc de 950 mètres. Rappeler que du coup, cette compétition, elle se fait sur neige artificielle. Le scandale de la neige apportée par camion. Et là, ils ont même, pour cette année, ils ont même raclé la neige sur les pistes de ski pour faire le stade de biathlon. Donc, c'est dire à quel point on va dans de l'absurde. Et donc on profite en fait des caméras du monde entier sur cet événement pour rappeler l'absurdité d'organiser des JO 2030 à 950 mètres d'altitude au Grand Bornand.
On va pas le faire là. En
fait. Oui, on va pas le faire là. Ouais.
Mais bon, ça, voilà, on est ensemble, on a les feutres, on le fait. Tac, Imata la veste Albertville, masqué tuba.
On est censé se retrouver à 1h30.
Pour rappel, voilà, à 13h30, on se retrouve à gauche, donc là dans la foule, à gauche du totem BMW.
Au niveau des athlètes, du coup, parce qu'on a dit qu'on s'occupait de Jean Monod, la 262, donc elle est plutôt vers la fin, elle part à 14h50.
Par rapport au plan, nous, on sera à quel endroit alors du coup?
Tout en haut à gauche, de dépôt.
Par là alors.
Ouais, on sera là.
Ok.
Eh bah, trop contente.
À toutes les copains.
À toutes. Merci.
Je m'implique et suis la politique locale depuis 2019. Et depuis 2022, je fais de la désobéissance civile. J'ai grandi dans la vallée du Gifre, en Haute-Savoie. J'ai appris à faire du ski à Prades-lys-Saumont, une station de ski. Et je vis et travaille dans la station de ski de Samois, qui fait partie du Grand Massif et de la Compagnie des Alpes. Par exemple, ma commune où j'ai grandi, ils ont fait un emprunt sur 20 ans pour renouveler tous leurs canons à neige. Et c'est une station de moyenne altitude. Le sommet est à 1998 mètres d'altitude. Et donc, personnellement, voilà, j'en veux à toutes les autres stations qui sont en effet plus hautes, qui peuvent continuer à faire du ski, mais qui du coup continuent à faire énormément d'argent et à entretenir le mythe du ski, et toutes les stations de moyenne altitude qui essayent de continuer à faire pareil. Ça entretient un déni global, en fait, au lieu de collectivement s'accompagner dans le deuil du ski, et j'en suis la première à en pleurer, quoi. Dans mon voisinage direct, j'ai sous les yeux un télésiège qui a été annulé en justice en 2022, mais il continue de fonctionner. J'ai un chantier qui est interrompu et qui est béant ouvert depuis 3 ans. Tout ça est lié et en fait, c'était plus possible pour moi de participer à ce système qui, par ailleurs, détruit autant l'environnement et qui génère énormément de tensions localement. Et il y a le fait qu'en France, il y a un décalage entre le temps de la justice et la réalité de l'économie, et que donc en France, ils forcent les projets même si les recours sur le fond ne sont pas jugés, d'où l'importance de faire des recours juridiques combinés à de la désobéissance civile, parce que les recours juridiques seuls ne suffisent pas.
Aujourd'hui, au Grand Bornand, la neige fait un bruit de bataille avec ses canons et ses fusils. Des fusils de biathlon et des canons à neige artificielle. Pardon. Des enneigeurs qui fabriquent de la neige de culture. Je plaide coupable, quand j'étais enfant, on disait canon à neige et neige à canon. Mais aujourd'hui, la guerre est aussi dans les mots. Côté neige de culture, d'abord, ceux qui la défendent, et avec elle l'industrie des sports d'hiver. La région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, qui a subventionné cette neige de culture à hauteur de 58 millions d'euros entre 2016 et 2024. Côté neige artificielle, ceux qui la combattent pour la menace que sa production fait peser sur la ressource en eau et sur la biodiversité. Certains vont jusqu'au sabotage. Derrière cette lutte hautement symbolique, qui pose la question de l'avenir des territoires de montagne, les vallées se déchirent et tous les coups semblent permis. Les témoignages que j'ai recueillis pour cet épisode sont inquiétants à plus d'un titre. Plusieurs personnes ont refusé de parler au micro. Trop d'enjeux, trop de représailles. C'est donc ça, le silence de la neige dont on nous a tant parlé. Avant de revenir sur les enjeux de cette bataille, posons le contexte climatique dans l'atmosphère feutrée du centre d'études de la neige.
Alors ici, on se trouve à l'observatoire du Col de Porte, qui est situé dans les Préalpes, dans le massif de la Chartreuse, à côté de Grenoble. On est à 1325 mètres d'altitude, donc ce qu'on appelle la moyenne altitude. Ça a été construit en 1959 et les mesures, elles ont commencé pendant l'hiver 1961 pour observer la neige, d'abord dans une optique de prévision du risque d'avalanche à la base, et puis pour observer aussi la météo.
Et vous, Marie Dumont, vous êtes directrice de ce centre d'études de la neige?
Alors, je suis chercheuse d'abord et aussi responsable du centre d'études de la neige. Ça fait 13 ans que je suis dans ce laboratoire maintenant.
Donc là, on va aller dehors. Qu'est-ce qu'on va faire?
Du coup, on va aller faire des relevés. On va faire ce qu'on appelle, nous, un puits stratigraphique pour caractériser les propriétés des différentes couches de neige. Et pour ça, bah, je vous propose de retrouver les 3 jeunes chercheurs là, qui travaillent avec moi. Oscar qui travaille sur la microstructure de la neige, Diego qui travaille sur le climat et le changement de la nature des avalanches, et Kevin qui travaille sur la neige arctique. Alors, moi je voudrais des gants. Les gars, on y va? On va passer par là-bas.
Ouais. Ah bah je sais pas, il fait froid, il fait moins ça quand même.
Allez.
C'est un site très précieux et on n'a pas le droit de marcher.
Ah oui.
Non, là ça va, il n'y a pas de souci. Faut juste pas marcher sous les capteurs et puis il faut pas perturber la neige. Parce qu'il faut qu'on laisse la neige naturelle le plus possible pour pouvoir faire notre trou pendant toute une saison. Ça fait un paquet de trous en fait. Du coup, ça c'est le début des mesures qu'on fait chaque semaine en hiver au col de Port. Où on va creuser un puits dans la neige et puis on va identifier les propriétés des différentes couches de neige. Ben, ça nous sert à essayer à comprendre ce qui se passe, ça nous sert aussi à évaluer tous nos modèles d'enneigement qui sont utilisés après pour faire soit de la prévision du risque d'avalanche, éventuellement de l'évaluation des ressources en eau et aussi des simulations climatiques derrière. Pour une hauteur totale de neige de
65.
Et là, c'était un évano avec toutes les mesures de 93 à 2011. Donc, on a l'évolution de la hauteur de neige, l'évolution de la température, des précipitations. Donc, par exemple, celui-là, en gros, ça, c'est toute la série de mesures qui fait 64 ans maintenant, qui sont faites au col de Porte, où on voit l'évolution de la hauteur de neige moyenne pendant l'hiver. Donc, on voit que ça varie énormément. D'un hiver sur l'autre, on a des hivers peu enneigés, des hivers très enneigés, ça c'est quelque chose qu'on garde. Par contre, quand on prend la moyenne et par exemple on compare la moyenne entre 60-90 et 90 à aujourd'hui, on passe de 1 mètre en moyenne à 60 cm aujourd'hui. Donc on a perdu quasiment la moitié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on peut comprendre pourquoi. Ici c'est l'évolution de la température de l'air moyenne pendant l'hiver, où on voit quand on compare les deux périodes de 30 ans, on a gagné 1 degré. Et ici, c'est l'évolution des précipitations totales. Donc, précipitation totale, c'est la pluie plus la neige. Et on voit, bah, il n'y a pas de tendance. En gros, ça reste tout le temps plat. Donc, il y a toujours la même quantité d'eau qui tombe du ciel. Par contre, comme il fait plus chaud et que la température moyenne, elle est à peu près à 0 degré, eh ben, on transforme la neige en pluie. Du coup, il pleut au lieu de neiger. Et c'est pour ça qu'on a cette très forte décroissance de l'épaisseur de neige. Et c'est ça qui fait qu'à moyenne altitude, on a un signal très très fort de raréfaction de l'enneigement avec le réchauffement climatique. Et en moyenne, sur les Alpes, on a perdu à peu près un mois d'enneigement depuis 1970.
On est au fond de la vallée des Ardoisières. On est sous les falaises d'Avoria. Il fait beau, mais le soleil ne vient pas jusqu'ici parce que c'est très encaissé. On va rencontrer une hôtelière, Aude Marula. Bonjour.
Bonjour.
C'est votre chien ?
C'est Nova, ouais.
Oh, je l'adore.
Il est content que ce soit l'hiver. Il attend les clients, il les accompagne sur le terrain et il revient, il fait ça toute la journée.
C'est vrai.
Sur les 10 derniers Noëls, on a eu 8 Noëls sans neige. Et là, visiblement, on aura un Noël avec neige cette année, donc Noël blanc. Est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est un retour à la normalité ? Je ne sais pas. La période de Noël, en tout cas, est assez familiale. Et les familles viennent quand même au sport d'hiver. Donc, pour ma part, en tout cas à l'hôtel, pas d'effet immédiat sur le manque de neige à Noël.
Comment vous voyez l'avenir ici, depuis votre hôtel, ou pour Morzine de manière générale, ici 15-20 ans ?
On a fait faire des études qui s'appellent les études ClimSnow. Ce sont des études de projection d'enneigement faites par Météo France, Via Neige, et qui nous montrent l'enneigement sous 20-50 ans. Il est clair que si on lit le rapport abruptement, on voit bien que c'est terminé. Dans 20 ans, ici, moi, à 1200 mètres d'altitude, j'aurai plus de neige. J'encouragerai pas mon fils à reprendre l'hôtel pour le ski alpin. Voilà. Aujourd'hui, on demande aux Morzinois, alors là, je ne reparle que de Morzine, hein, d'accepter qu'à 1000 mètres d'altitude, on aura moins de 100 jours d'enneigement par année. Et vous parlez là de l'or blanc, de 90% de notre chiffre d'affaires. Vous demandez aux Morzinois d'accepter l'inacceptable, en fait. On se voile la face, clairement. Moi, la première, hein, avec mon hôtel, regardez, il y a la neige dehors, tout va bien, tout va bien.
Déjà, on pense à l'hiver. Avec
Archivina, 1963.
Et à propos d'hiver, voici une bonne nouvelle pour les Parisiens, tout au moins pour ceux qui aiment le ski.
Ils pourront aller skier tout près de la capitale, dans le Morvan. Seul inconvénient, si les pentes sont belles, l'enneigement par contre est insuffisant.
Mais alors Jacques Chabot, comment feront-ils pour faire du ski s'il n'y a pas de neige?
Eh bien c'est très simple, on va employer de la neige artificielle. Elle sera produite par un mélange d'eau et d'air comprimé, répandu par une température d'au moins 0 degré, à l'aide d'une batterie de 5 anneaux spéciaux de fabrication américaine. C'est simple, vous le voyez, mais encore fallait-il y penser.
Et je crois que c'est la première expérience de ce genre qui est tentée en France.
Oui, c'est la toute première expérience, et grâce à ce procédé, on pourra obtenir une couche de neige artificielle d'au moins 20 cm. Et les pistes, je pense, pourront fonctionner dès la saison prochaine.
C'est bon, quand même, hein. C'est assez agréable. Voilà, ces éclairages. Et puis là, quand on a des températures comme en ce moment, on marche sur cette neige et ce petit bruit.
Florent Jacquemont, responsable du pôle neige aux Arcs.
Donc là, c'est ce qu'on peut appeler de différentes façons, mais une perche ou une lance.
Comment voilà. Vous le décririez?
Donc il y a différentes tailles. Là, celle-là, elle fait 6 mètres de haut. En général, on est plutôt sur 10 mètres de haut pour avoir une plus grande évaporation, pour que la gouttelette d'eau qui est pulvérisée au sommet puisse s'assécher le temps de la chute et avoir une neige la plus sèche possible. Et là, pour venir ici, l'eau a peut-être fait déjà 20 km. Donc nous, ce qu'on adore, c'est du froid, du beau temps. Et en plus, s'il n'y a pas de vent, bah, au moins on a une bonne balistique, on sait où la neige est posée.
Florent, vous faites ce métier depuis 20 ans. C'est un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années, niveau culteur.
En effet, oui. Au tout début, c'était un métier qui était en complément souvent d'un autre. On allait faire de la neige en plus de notre métier de base. Donc soit on travaillait en tant que pisteur, soit sur les remontées mécaniques. Et quand il y avait un peu de froid, on allait bricoler. Et on était plus dans des phases de prototype. On essayait de faire tourner une installation. Donc on complétait des zones qui étaient un peu critiques et on essayait de faire de la neige. Donc c'était pas tout le temps avec grande réussite. On faisait quand même quelques plaques de glace. Et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé déjà par les constructeurs qui ont fiabilisé la technologie, qui ont fait évoluer les supervisions. Et puis le métier bah, un peu suivi aussi. Et une espèce de confrérie aussi. Donc tout le monde a grandi ensemble. Tout le monde faisait son retour d'expérience d'une station à une autre. Et puis un petit challenge entre stations. Tout le monde s'est un peu dit « je vais essayer de faire mieux que le copain ». Et puis bah, au milieu, avec Domaine Skiable de France, il y a aussi eu de la formation possible avec des gens qui sont docteurs en physique de la neige. Donc tout a évolué, le climat a évolué, mais aussi l'attente de nos clients. On a des prestations qui sont de plus en plus importantes et attendues. Donc il faut soigner l'esthétisme, soigner la sécurité. Donc c'est sûr que pour ça, la neige produite, c'est quand même un avantage et aussi ça qui est intéressant.
Est-ce que vous voulez bien nous faire visiter ce pôle neige de la station des Arcs?
Ben avec plaisir, on va rentrer. Là, on est en pleine production. Le but, c'est de préparer le manteau neigeux avant l'arrivée de nos clients. Donc, ça se fait maintenant. On est à peu près 750 enneigeurs sur le domaine. Donc, sur la piste, on a des capteurs, des sondes de température, des anémomètres pour avoir la vitesse et l'orientation du vent. Et avec tous ces capteurs, on va aller donc dans la partie qui est juste à côté, qui est le bureau du service neige. On va avoir toute la série d'écrans et avoir toutes ces informations pour piloter au mieux et avoir une installation qui est performante et avec une neige qu'on va pouvoir orienter et mettre au bon endroit.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Nicolas Courceau, c'est notre responsable du service neige, donc qui est en charge de la maintenance, l'optimisation du réseau neige. Donc là, en fait, on a quand même pas mal d'écrans. La supervision principale, où on voit tous les petits carrés, c'est tous les enneigeurs en face de Nicolas. Ça va nous permettre aussi de gérer tout ce qui est ressources en eau et en air. Donc depuis là, il peut tout piloter. Et sur le côté droit, on a ce A0 qui nous permet de visualiser le plan d'enneigement. Donc les pistes priorité 1, 2, 3. Et après, derrière, si on a encore de la ressource ou on veut améliorer certaines zones, on a ce qu'on appelle les options. Donc aujourd'hui, on est en train de finir tout ce qui est pistes priorité 1, qui sont les retours stations débutants. Et après, voilà, avec cette ressource, ce débit instantané, ça nous permet de mieux piloter et en fonction des températures, des altitudes, et bah, être tout de suite efficient.
Tu peux répéter, oui.
Donc je voyais sur la carte, surface totale enneigée 1 807 446 m².
On a une ressource aussi en eau, on a des droits en eau et des autorisations, et ça ne veut pas dire que cette eau est à nous, c'est un bien commun. Donc c'est aussi être acteur du territoire, être responsable. Donc c'est pour ça que nous on a développé en interne ce qu'on appelle la juste neige, et c'est vraiment, on parlait avant d'optimisation, là on est plus vers l'efficience. Depuis 2015-2016, on a 250 enneigeurs de plus. Par contre, on consomme autant d'eau qu'en 2015-2016. On a une capacité en eau de plus de 770 000 m3. L'hiver dernier, on était à 460 000 m3 de production. Donc, on va jamais chercher le maximum.
Qu'est-ce que ça veut dire, une capacité? C'est le maximum que vous êtes autorisé à utiliser?
Voilà, c'est exactement ça. On a une autorisation qui nous permet de prélever cette eau. Donc, on a déjà une partie de l'eau qui est stockée. On a une photo juste là derrière de la retenue, qui est une retenue qui stocke 400 000 m3 d'eau. Et ça, c'est de l'eau qui est prélevée à la fonte des neiges. Donc, si on réduit un peu la vision de tout ça, l'hiver, l'eau, on la met en neige sur la piste et... au printemps, cette neige revient de l'eau dans la retenue. Donc voilà, ça fait un peu un circuit fermé. C'est très réducteur comme vision, mais...
J'imagine qu'il y a un peu d'évaporation, il faut quand même re-remplir d'une manière.
Voilà, puis il y a de l'eau qu'on pulvérise sur un autre bassin versant, donc c'est pas la même neige qui re-rentre dedans. On peut aller très loin sur le sujet, mais notre responsabilité, c'est justement de ne pas faire n'importe quoi. Donc on est toujours en train de se remettre en question.
On va rencontrer Sandra Lison du collectif citoyen de la Vallée d'Eau qui lutte contre la construction d'une retenue collinaire pour alimenter les canons à neige. Là, on est à 1690 mètres d'altitude et en termes d'épaisseur de neige, quand même, hein, c'est pas mal.
Mais non, mais il n'y a pas 30 cm. Il n'y a rien.
15 cm à peu près.
Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a des premières chutes de neige au mois de novembre. Cette année, on n'a rien eu. Et depuis, il fait très très doux. Et là, on a eu quelques chutes de neige, ce qui n'a pas permis l'enneigement des domaines skiables. En fait, Avoria a fait de la neige artificielle là, depuis une quinzaine de jours, depuis que les températures sont plus basses. Voilà, donc en fait là, on pourrait penser que c'est une jolie prairie qui a été recouverte d'une mince couche de neige. En fait, il y a 2 hectares de forêts qui ont été abattues et la zone a été défrichée. Donc en fait, là, il y avait donc une jolie pécière, c'est-à-dire de magnifiques épicéas comme on peut voir là tout autour, avec des myrtillers, de magnifiques... fourmilière, enfin c'était voilà, un paysage comme vous avez là sur les côtés. Et début octobre, les travaux ont commencé. Il y avait là des travaux d'enfouissement, donc il y avait des grosses machines qui pelletaient pour enfouir les réseaux électriques et eau. Et ici, il y a eu vraiment de l'abattage d'arbres qui s'est fait très très rapidement en fait. Il y a toute une équipe de bûcherons qui sont venus et en... une journée et demie, ils avaient abattu tous les arbres qu'il y avait là. On avait l'impression de voir des grands monsieur allongés, quoi. C'était une vision pas très jolie.
Qu'est-ce qui va naître sous nos yeux d'ici quelques mois?
Alors, après la saison, vont commencer les travaux de la construction de la bassine. Donc la bassine fera 92 000 mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de la consommation d'une commune de 2000 habitants annuels.
Pourquoi on veut stocker autant d'eau ici?
Alors en fait, elle va servir à enneiger tout le versant sud, donc le versant supermorzine. C'est une partie basse déjà, donc il y a du mal à recevoir un enneigement naturel. Et c'est une partie qui déneige très très vite. Quand on est à Morzine, il n'y a pas besoin de faire de grandes études scientifiques pour voir que le domaine skiable en face sud n'a plus de neige. La face sud se situe entre 1700 mètres d'altitude et 1550. C'est déjà très bas aujourd'hui.
Donc ce que vous dénoncez dans un premier temps, c'est que c'est un projet qui va avoir une durée de vie très courte parce que peut-être que d'ici 10-20 ans, de toute façon, on ne pourra même plus enneiger artificiellement cette partie du domaine skiable. Oui.
Je suis pas d'accord pour enterrer le truc avant, vous voyez ?
Thomas Faucheur, directeur du domaine de ski d'Avoria.
On n'est pas encore en soins palliatifs, faut pas non plus... oui, il y a des difficultés, oui, il y a des évolutions, oui, il y a une certaine adaptation, mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est un 15 décembre, on est sur des montagnes qui sont... regardez, hein, à travers la vue 360 qu'on a, tout est blanc. Et je vous assure... qu'il va se passer une très bonne saison de ski.
Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui pour vous la construction d'une retenue collinaire de 92 000 mètres cubes d'eau sur votre domaine skiable ?
Alors, en fait, c'est la fin de la modernisation de cette infrastructure. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, la partie qui est à enneiger, c'est la partie historiquement la plus basse d'Avoria, et la moins bien exposée, sur laquelle il y avait déjà une infrastructure qui a été faite dans les années 90, mais qui est effectivement totalement obsolète. Donc en fait, c'est simplement la mise à jour en fait, de cette partie-là. Si on prend à Avoria, par exemple, la surface des pistes couvertes par de la neige de culture, c'est environ 40%. On a un projet, on devrait passer à environ 50%, et je pense que globalement, notre adaptation, on va dire, elle s'arrêtera à peu près par là. Puis après, on fera avec ce qu'on a, en comptant toujours sur de la neige naturelle, très clairement. Voilà.
Sandra, vous parlez de bassines, on parle aussi de retenue collinaire. Certains refusent ces termes. Oui. Quel terme utiliser ?
Alors, en fait, retenue collinaire, c'est un terme qui est employé parce que c'est évidemment plus joli que bassine. Mais là, on peut vraiment dire que nous sommes sur une bassine. La retenue collinaire, ce serait donc un lac, même s'il est artificialisé, mais qui, lui, se remplirait par le ruissellement des eaux de fonte de neige, de pluie, etc. Ici, là, on est vraiment sur un ouvrage qui va être rempli par pompage du lac 1730 situé à Avoria. Voilà pourquoi moi je l'appelle jamais retenue collinaire. Je trouve que les mots ont leur importance, comme c'est pas de la neige de culture, elle pousse pas, on la fabrique, ça demande une mise en œuvre très lourde, et peu importe le mot qu'on choisit, il n'empêche que derrière, on a des structures énormes qui fabriquent cette neige et qui sont très impactants pour la biodiversité. Il y a des études, évidemment, environnementales qui ont été faites. Il y a des écologues qui sont passés. Il y avait 42 espèces d'oiseaux, dont 35 protégées nationalement. Nous, on a discuté avec la LPO. On disait, est-ce que les oiseaux qui sont là iront sur les arbres d'à côté ? Ils nous disaient, non, ça ne marche pas comme ça. Peut-être que vous avez ici des oiseaux qui sont inféodés à leur arbre. Leur arbre va tomber et ils vont partir à 30 ou 50 km de là. On les reverra plus. Et ce qui nous a choqué, c'est qu'il n'y ait eu aucune réunion publique d'information, aucun débat, alors qu'on parle d'une montagne qui est très impactée par le réchauffement climatique et que ce sont peut-être des ouvrages qui, dans 10 ans, n'auront même plus d'utilité.
Les scientifiques sont formels. L'utilisation abusive des canons à neige pour ouvrir les pistes de ski à tout prix ne restera pas sans conséquences directes sur l'environnement, à commencer par l'épuisement progressif des réserves d'eau potable en montagne.
Il n'est pas certain que toutes les installations de canons à neige respectent ce que l'on voudrait en matière de captage d'eau.
Domaine skiable dans le collimateur Les Trois-Vallées. Ici, on dispose d'une force de frappe digne de l'OTAN avec quelques 800 pièces d'artillerie pointées vers les pistes. À titre d'exemple, Courchevel dispose à elle seule de 220 canons. Et pour enneiger 50 hectares de son domaine skiable, la station savoyarde vient d'engloutir en quelques semaines 100 000 mètres cubes d'eau. L'équivalent de 2 jours de consommation d'une ville comme Grenoble. Cela dit, à Courchevel, on se défend d'enfreindre les règlements en matière de captage.
Comme on l'entend dans cet archivinat de 1990, les inquiétudes quant à l'accaparement de la ressource en eau pour la fabrication de neige artificielle ne datent pas d'hier. Au début des années 2000, certains doivent même prendre des décisions drastiques. C'est le cas par exemple d'Alain Boulogne, qui à cette époque est maire de la commune des Gets en Haute-Savoie.
Les Gets, c'est évidemment le plus beau village, mais il est situé sur un col, avec une montagne qui descend de chaque côté, mais qui fait que du coup, c'est à la fois un lieu de passage et c'est un lieu où on n'arrive pas, je dirais, à garder l'eau, puisque la situation géographique de col fait que l'eau s'écoule, mais ne peut pas rentrer sur une nappe phréatique. Et ça fait partie des sujets délicats des Gets aujourd'hui. Alors, j'ai été élu en 2001, c'est un mandat qui a fait 7 ans, donc jusqu'en 2008. Dès le premier jour où je me suis installé dans le fauteuil de maire, j'avais déjà 10 permis de construire à signer sur mon bureau. Évidemment, je faisais part de mes inquiétudes en disant « mais il me semble que là, on est en surchauffe ». Et du coup, le seul fait de dire « j'ai l'impression qu'on est en surchauffe », ça provoque encore une hystérie supplémentaire de dire « bon, il faut vite déposer les permis ». C'est un peu vertigineux comme situation. Ce qui fait que la seule solution que j'ai trouvée pour essayer d'avoir une période de calme, pour réfléchir à tête reposée sur qu'est-ce qu'on va faire de notre village dans le futur, ça a été de dire « je bloque les permis parce qu'on n'a plus assez d'eau et que je peux pas fournir l'eau ». Alors, au départ, c'était un prétexte qui s'est avéré parfaitement juste un an après, puisqu'en 2003, on a vécu une sécheresse historique sur le village où il a fallu remplir les réservoirs avec des camions d'eau. C'est-à-dire que ce que j'avais intuité s'est révélé juste 6 mois après, À savoir que là, on était parti sur des lignes qui n'étaient pas tenables,
Mais est-ce qu'il y avait déjà... un enjeu de conflit d'usage avec l'usage de l'eau pour alimenter les canons à neige.
Alors là, on parle de la sécheresse 2003, c'était en été. Donc du coup, il n'y avait pas de conflit d'usage avec les canons à neige. Par contre, ce conflit d'usage, lui, il arrivait dès l'hiver suivant. À savoir qu'on avait puisé déjà largement dans les réserves collinaires qui étaient déjà construites et que du coup, on n'a pas pu refaire les réserves pour l'hiver suivant. Résultat des courses, à un moment donné, dès Noël d'ailleurs, le dilemme qui était posé, c'est est-ce qu'on met de l'eau dans les robinets ou est-ce qu'on met de l'eau pour fabriquer de la neige ? Et en tant que maire, cette question-là, pour moi, elle n'a même pas à être discutée. Le maire doit fournir l'eau potable au robinet, point barre. Mais on peut presque le dire comme ça, c'était déjà le début de la guerre de l'eau. Et on n'est encore qu'au début de la guerre de l'eau.
Sandra, on a tendance à penser qu'à la montagne, on manque pas spécialement d'eau.
En 2022-2023, en Haute-Savoie, on a été tellement impacté par des sécheresses que 13 communes ont été ravitaillées en eau par camion. Donc en fait, on a vu, nous, les bassins qu'il y a dans tous les petits hameaux, des villages qui servaient à abreuver les animaux. Il y a beaucoup de bassins qui ont arrêté de couler. Donc l'eau en montagne, ce n'est plus quelque chose d'abondant et en tout cas, ce n'est pas une ressource inépuisable, ce qu'on a tendance à penser. Je veux vous lire vraiment quelque chose que je trouve incroyable. Donc, en 2024, février 2024, est sorti donc le dernier rapport de la Cour des comptes sur les stations de montagne. Et donc, la Cour des comptes affirme que la neige artificielle permet uniquement de fiabiliser l'enneigement à court terme et qu'elle ne constitue qu'une protection relative et transitoire contre les effets du changement climatique. Son coût est en effet important. Et son efficacité tend à se réduire avec la hausse des températures. Le rapport poursuit, les domaines skiables de France présentent la production de neige comme un processus vertueux pour le cycle de l'eau, dans la mesure où l'eau prélevée revient au milieu naturel au moment de la fonte des neiges. Néanmoins, les effets de la modification du cycle de l'eau et le taux de restitution dans le milieu sont mal connus par les exploitants. De plus, tout prélèvement modifie le cycle de l'eau et a des conséquences sur les milieux naturels.
La publication du rapport de la Cour des comptes, intitulé « Les stations de montagne face au réchauffement climatique », fait l'effet d'une première détonation en février 2024. Quelques mois plus tard, la deuxième détonation vient d'un journaliste, Moran Kerinek, qui révèle sur le site d'information Blast comment certaines stations contournent les règles et la loi pour remplir leur retenue d'eau. C'est l'OFB, Office français de la biodiversité, qui a fait les constats suivants. À Courchevel, en 2018, un cours d'eau a été asséché. En 2022, l'équivalent de 68 piscines olympiques ou plus y ont été prélevées en toute illégalité. Au Grand Bornand, en 2022, 8000 mètres cubes d'eau ont été captés en dehors de la période autorisée. La Palme revient au village de Laclusa, où l'OFB découvre en juillet 2022 un dispositif souterrain secret, construit en toute illégalité et en fonctionnement depuis 22 ans, qui permet de pomper l'eau d'une source pour remplir une retenue collinaire dédiée à la neige artificielle. Laclusa. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, tant son projet de construction d'une cinquième retenue d'eau a fait grand bruit dans les médias du monde entier, devenant le symbole de la guerre de la neige en 2022.
C'est une véritable ZAD qui s'est installée en 24 heures sur le plateau de Beauregard.
Archivina, 2022.
Le préfet de la Haute-Savoie a validé l'aménagement d'une retenue collinaire à Laclusa, un projet devenu combat pour de nombreuses personnes qui ont décidé d'occuper le site.
Le nouveau préfet nous a complètement ignorés. La démarche démocratique, elle a été complètement bafouée.
On essaye de proposer des solutions alternatives à la mairie, elle ne veut pas être en dialogue. On pense que c'est vraiment absurde de faire une retenue collinaire alors qu'il y a eu des sécheresses cet été, prendre de l'eau pour faire de la neige artificielle, ça ne paraît vraiment pas une priorité.
Je crois qu'on a déjà beaucoup détruit les Alpes, notamment dans la création des domaines skiables, etc. Et je pense que ça suffit, en fait. Maintenant, c'est bon, on n'a pas besoin non plus de surexploiter en fait, la montagne.
Quand on est jeune, je pense que je ne suis pas du tout la seule concernée. Ça fait vraiment mal de voir son monde en train d'être détruit par des gens qui n'en ont rien à faire et qui veulent juste continuer à faire du profit et qui ne prennent pas vraiment en considération la vie des gens aujourd'hui et surtout la vie des futures générations.
On sent que les projets de construction de nouvelles retenues collinaires sont un peu plus clivantes. Il y a eu l'exemple de la Clusa qui a beaucoup fait parler médiatiquement. Vous, ici, à Voria, Thomas Faucheur, vous portez un projet depuis plusieurs années de construction d'une nouvelle retenue collinaire qui a aussi rencontré une certaine forme d'opposition avec une pétition qui a été signée par 30 000 personnes, je crois. Est-ce que... vous comprenez que la population locale puisse douter de la nécessité de construire de tels ouvrages aujourd'hui?
Alors, moi, je comprends tout à fait que sur ces sujets-là, on ait du débat et de la discussion. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Et le système, il est quand même construit comme ça. C'est-à-dire qu'on a des dossiers qui sont instruits, avec des enquêtes publiques, etc. Par contre, évidemment, on vit moins bien quand le débat... est un peu confisqué pour des raisons politiques. Et c'est ça qui est regrettable. Parce qu'aujourd'hui, quand des gens, finalement, qui viennent utiliser la caisse de résonance médiatique que peut offrir un projet en station, comme la Clusa, on agite tout ça, on fait un énorme bazar, puis après, ils sont où, ces gens? Ils vivent sur le territoire? Ils sont encore là? Non, bien souvent, ils vivent dans les villes, ils vivent loin de ces vallées. C'est pas eux qui vivent dans les vallées. Nous, on vit dans les vallées, on travaille dans les vallées. Donc on est, j'allais dire, les premiers garants, finalement, de ce paysage, parce que nous, on a choisi d'y vivre. Alors, si demain, on peut plus y vivre, ben, qu'est-ce qu'on aura comme activité économique? On viendra grossir le rang des villes, grossir les banlieues, et c'est finalement ça qu'il faut viser.
Il y a quelques habitants, quand même, qui sont contre ce projet. Je ne sais pas, on n'a pas de chiffres, en fait. Vous, est-ce que vous avez pu mener des réunions de débat public pour... savoir quel est le soutien d'une part et d'autre, avoir un vrai débat avec les habitants?
On n'a pas forcément mené un débat public, parce qu'en fait, ça part tout de suite dans des choses qui sont très politisées. Moi, c'est ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on est vite dans des postures qui sont très idéologiques. Je ne dis pas qu'on a raison, mais en tous les cas, on a une responsabilité aujourd'hui. Vous savez, notre entreprise, par exemple sur Avoria, elle emploie 350 personnes. Moi, si je me lève tous les matins... c'est avant tout, quand même, avec cette responsabilité d'employeur local, voilà, cette responsabilité de faire travailler un certain nombre de personnes. Ensuite, deuxième responsabilité de se dire que on est effectivement une activité touristique et que finalement, bah, on est là pour permettre aux gens de s'évader, de passer un bon moment Et ça, c'est notre responsabilité un peu sociétale. Alors, bien entendu, ça ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. Ça, c'est clair. Nous ne sommes finalement que les garants d'un espace qu'on nous a délégué et dans lequel on doit faire les choses du mieux possible.
Allez, alors attention, attention, attention. Les images de la télé, c'est les caméras du monde entier qui viennent de se braquer sur le Grand Bornand, qui vous offre la neige, le soleil aujourd'hui et l'ambiance la plus folle du biathlon. Plus fort encore, allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. De la couleur, du bruit surtout, du bruit ici, du côté du stade, mais du bruit également, tout là où on vous voit. On veut voir les drapeaux bouger aussi à la source. On veut vous voir et on veut vous entendre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, allez!
Au niveau glisse, là, avec ce qu'il est tombé comme neige hier, c'était sûrement bien.
C'est très très dur à skier. On est sur une neige qui a beaucoup lustré, donc on a l'impression de skier un peu sur de la glace. Non, aujourd'hui, c'était pas les conditions les plus agréables.
Retour au Grand Bornand, où la Coupe du Monde de biathlon bat son plein. Je retrouve Dédé, militant Extinction Rébellion, pour qu'il me raconte comment s'est déroulée leur opération commando.
Au moment de l'action, le plan a bien été respecté, hein, mais les gendarmes ont été très réactifs. Du coup, nos deux protagonistes ont eu du mal à détendre la banderole. On a pu voir un petit peu la banderole, mais on n'a pas trop des photos là-dessus. Du coup, Lara, elle a réussi à être torse nu et à voir envoyer un peu ses inscriptions, et puis elle est restée un peu sur place, donc normalement on devrait avoir quelques images, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu frustrant, on va dire. Ça fait un peu chier de se faire embarquer alors qu'on n'a pas vraiment réussi, quoi.
Qui a été embarqué finalement?
A priori Lara, c'est sûr, elle est repartie avec les menottes.
Ok, donc c'est une semi-réussite.
Ouais, enfin un semi-échec plutôt qu'une semi-réussite, je dirais, parce que c'est sûr que ça ne sera pas passé à la télé, à mon avis. Pour le grand public, c'est comme si c'était rien passé. Nous, on va pouvoir communiquer dessus, mais... voilà.
Ok, je te redis alors.
Est-ce qu'on peut se mettre là pour...
Marie Dumont, face à ce réchauffement climatique, à cette diminution de l'enneigement, on cherche des modes d'adaptation. Alors il y a évidemment la fabrication, la production de neige. Il y a aussi la question de retenir de l'eau tout simplement en altitude, soit pour fabriquer de la neige, soit pour aider les agriculteurs, les habitants des montagnes. Est-ce que c'est une bonne adaptation pour vous, Marie Dumont ?
Alors, j'ai pas les compétences nécessaires pour vraiment répondre à cette question et dire si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation au réchauffement climatique. Moi, mon rôle, tel que je l'imagine en tant que scientifique, ça va être de donner les éléments et de faire les calculs pour justement arriver à savoir quelles sont les conséquences de certains choix de faire ces retenues collinaires ou non. Par exemple, dans le cas de la neige et de la neige de culture, et des stations ski, on va mener des études pour savoir quelle quantité d'eau va être nécessaire à la production de la neige dans certains scénarios de réchauffement climatique. Et après, on va donner ces calculs aux acteurs de la montagne pour qu'eux aient tous les éléments en main pour prendre, du coup, les bonnes décisions derrière.
Charge à eux de bien les utiliser ou non.
Je vois que vous avez un Sweet Sea Shepherd.
Alors ça, c'est le pur hasard. C'est mon pull de bricolage.
Homme Marula. Oui. J'allais vous demander si vous aviez une sensibilité un peu environnementale.
Alors, pour refaire un peu l'histoire, là, si on parle un petit peu de l'évolution politique, donc il y a 4 ans et demi, on est toute une équipe de jeunes du village à nous être motivés pour nous présenter aux élections municipales. On a monté un programme électoral qui était ce qu'il était, c'est vrai, avec une tendance un peu plus écolo, on va dire. Et on a été élus, à ma plus grande surprise. Donc j'ai pris le poste de premier adjoint avec une équipe qui était ce qu'il était, de gens de bonne volonté, qui ont voulu faire pour le village, qui n'avaient absolument aucune expérience en politique. Il n'y en avait pas un qui avait déjà été élu. Et les enjeux d'un village comme Morzine-Avoria, pour une poignée de jeunes écolos, on va dire, c'était hyper compliqué. Donc je me suis investie à fond, l'hôtel a énormément souffert, ça c'est évident. On est beaucoup à s'être investi, on a eu tout le village contre nous parce qu'on nous appelait les Khmer Verts. Et on s'est pris des coups, ouais, il y avait eu des journaux anonymes, pneus crevés, plaques d'immatriculation arrachées. Ouais, ouais, on en a vu des vertes et des pas mûres. Ouais. C'était hyper violent. Pour quelqu'un du village, on est 2800 habitants et ça, il y a eu une guerre incroyable qui est encore très présente aujourd'hui. Mais personnellement, j'ai jeté l'éponge parce qu'on était une poignée, encore une fois, de bonne volonté. Le maire avec qui j'étais recevait les promoteurs porte fermée dans son bureau, donc ça, c'était déjà un non total. Mais surtout, on avait une échéance à Morzine qui était au mois d'octobre, une délégation de service public à renouveler. Donc les 25 prochaines années du village, j'ai démissionné parce que je pensais qu'on n'était pas capable. Et les élus qui sont en place actuellement ont signé avec un délégataire privé pour 25 ans. Donc à nouveau, Morzine n'aura pas les cartes en main. Aujourd'hui, c'est foutu. C'est reprendre la main sur nos remontées mécaniques aujourd'hui à Morzine, c'est foutu. Donc la prochaine échéance, c'est 2032, c'est à Voria, 62 millions de chiffres d'affaires par année. Il faudra être musclé. Je ne sais pas si j'irai. J'encourage les gamins du village à y aller, mais encore une fois, il faut avoir les connaissances, il faut être bon. Il faut être très bon. Il faut être fort.
La difficulté qu'on a rencontrée il y a déjà 15 ans maintenant.
Alain Boulogne, ancien maire des Gets de 2001 à 2008.
Mais qui perdure, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de cette matrice du ski qui est portée par des lobbies très puissants. Et l'imaginaire au-delà du ski pour retrouver la montagne est complètement bloqué en fait, parce que le ski a tout mangé.
Et quand on dit lobby, on pense à qui concrètement?
Il y a trois groupes de lobbies qui s'entendent très très bien. Le premier d'entre eux, ce sont les élus de montagne, qui se sont toujours très bien entretenus, quel que soit le bord politique, pour faire en sorte qu'on fasse notre cuisine entre nous et que surtout on ait personne d'autre dans les pattes. Le deuxième lobby auquel on pense spontanément, c'est les remontées mécaniques qui représentent une industrie capitalistique qui immobilise énormément de capitaux. Donc automatiquement, comme c'est de l'industrie lourde, ben oui, ils pèsent lourd, ils sont là, il faut investir, il faut amortir, donc ils sont très présents. Et le troisième lobby, c'est le lobby des moniteurs de ski, qui eux sont directement intéressés par la question. Ils vendent des virages sur la neige, et il faut absolument que la neige perdure, quoi. Et ces trois lobbies fonctionnent très très bien ensemble, et ils disent, ah mais non, mais nous, on représente la montagne, et il y a personne d'autre, quoi. Encore aujourd'hui, on n'arrive pas à passer au-delà de ces lobbies, quoi.
Cette vision que vous avez de la montagne, ce que vous aimeriez qu'elle soit, ce que vous avez pu porter, ça a pu vous coûter cher, Alain Boulogne?
Oui, à la région Rhône-Alpes, effectivement, j'ai perdu mon travail à ce moment-là, parce que ça avait fait tellement de remous qu'on m'a gentiment demandé d'aller voir ailleurs si je pouvais pas exercer mes talents, ce qui est toujours un peu vexant, quoi. Les gens, ils avaient qu'une impatience, c'est que je tourne les talons pour pouvoir continuer comme avant.
Et de fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Et de fait, on est reparti comme avant, c'est-à-dire que dans le PLU qu'on avait révisé, donc il y avait à la base des promesses de droit à bâtir pour construire 60 000 lits. 15 000 lits étaient construits. Moi, j'avais réussi à faire revenir ces 60 000 lits à 4 000 lits sur 10 ans. Et dès l'année suivante de mon départ, on révisait le PLU pour pouvoir agrandir ces zones à construire. Donc bon, voilà. Au moment où j'étais maire, je me disais, mais si j'étais vraiment écouté par la population, on donne 1 degré, 2 degrés d'orientation chaque année et ça va passer. Là, aujourd'hui, il faut donner un coup de barre. Enfin, c'est le Titanic, quoi. Il faut donner un coup de barre et la barre répond plus, quoi. Enfin, moi, je pense qu'on en est déjà là, en tout cas pour ce qui concerne les moyennes montagnes.
Col de Porte, centre d'études de la neige.
Oscar, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous êtes en train de faire?
Oui, donc là avec Kevin, on était en train de prélever une carotte de neige pour ensuite l'apporter en chambre froide et en faire une tomographie pour pouvoir analyser sa microstructure.
Chambre froide?
Thank you.
froide.
Il fait combien de degrés ici?
Ici, il fait moins 8. Mais on peut descendre à moins 20, moins 25. Et juste ici, vous avez le tomographe dans lequel on vient placer la carotte de neige si on veut en faire un scanner. Et là, actuellement, du coup, c'est mon travail de doctorat. Donc, on constitue un échantillon de neige et on vient imposer une température en dessous et au-dessus pour le soumettre à un gradient thermique. Et ce, directement dans le tomographe pour pouvoir suivre l'évolution de sa microstructure à l'échelle du micron.
Qu'est-ce que c'est qu'un tomographe ?
Alors, un tomographe, c'est une machine avec une source de rayon X et un détecteur. Et on vient donc envoyer des rayons X sur notre échantillon de neige, ce qui permet de visualiser son scanner.
Donc là, pour visualiser, on va ressortir.
Exactement.
Parce qu'on a très froid et qu'on n'entend rien.
Marie Dumont, au sein du Centre d'études de la neige, vous étudiez la microstructure de la neige. Qu'est-ce que c'est que cette microstructure et pourquoi on l'étudie ?
Cette microstructure, en fait, c'est l'arrangement 3D de l'air et de la glace dans la neige à toute petite échelle, à celle du micron, donc 10-6 mètres. Pourquoi on l'étudie ? On l'étudie parce que cette microstructure, c'est ça qui va déterminer les propriétés de la neige. À quel point elle va être blanche, à quel point elle va renvoyer ou non le son, à quel point elle va être stable, à quelle vitesse elle va fondre, etc. Donc c'est vraiment fondamental. Une fois qu'on connaît du coup ces propriétés, qu'on sait comment elles dépendent de la structure, c'est quelque chose qu'on peut réinjecter dans des modèles qui derrière sont utilisés pour faire la prévision du risque d'avalanche, la prévision hydrologique et in fine sont utilisés pour faire des prévisions climatiques et des projections du climat futur.
Marie Dumont, vous nous l'avez expliqué, on constate une diminution de l'enneigement dans les Alpes depuis un demi-siècle à peu près.
Ouais, depuis 1970.
Quelles conséquences concrètes a cette raréfaction de la neige dans nos montagnes ?
Alors la première conséquence à laquelle on pense souvent quand on pense à la disparition de la neige, c'est la conséquence que ça a pour l'économie des régions de montagne et les stations de sport d'hiver et le ski. Mais en fait, le recul de la neige, il a beaucoup d'autres conséquences auxquelles on ne pense pas nécessairement en premier. D'abord, il y a eu une conséquence sur les ressources en eau en montagne. Parce que la neige, en gros, c'est un stock d'eau qui va être délivré au moment de la fonte, qui va être utilisé pour l'agriculture, par les écosystèmes qui vivent en montagne aussi, et aussi beaucoup pour l'hydroélectricité, le remplissement des barrages. Quand on a moins de neige en montagne et aussi plus de pluie en hiver, on va avoir un bouleversement qu'on observe aujourd'hui complet du cycle de l'eau en montagne. En gros, on va avoir plus d'eau en hiver parce que ça tombe sous forme de pluie et plus sous forme de neige, avec un risque d'inondation qui est du coup un peu majoré. On va avoir un pic d'eau de fonte qui est moins haut, parce qu'il y a moins de neige, qui va arriver aussi plus tôt en saison. Donc on va avoir plus d'eau à un moment qui n'est pas le même qu'avant, c'est plus tôt. Il va falloir que les écosystèmes et les humains ils s'adaptent à ça, ça prend forcément du temps. Et ensuite, comme le pic d'eau de fonte il est moins haut parce qu'il y a moins de neige, ça va amener à ce qu'on appelle un étiage, c'est-à-dire des basses eaux, qui est plus fort en été, avec un risque de sécheresse qui est aussi plus élevé.
Okay. Température ?
Allez, température. Donc là, on avait dit que dans l'air, on avait moins 3 degrés. Kevin Fourteau, chercheur au Centre d'études de la neige.
En surface, on avait aux alentours de moins 8 degrés. Et là, je me suis placé à 10 cm à peu près sous la surface. Et dans le manteau neigeux, là, je mesure moins 4 degrés. Donc déjà, on voit que en fait, plus on s'enfonce dans le manteau neigeux, plus ça a tendance à être chaud. Et généralement, le point le plus chaud du manteau neigeux, en fait, c'est celui qui est situé juste à la base, à l'interface avec le sol. Et là, je le plante et le thermomètre, il s'est mis directement à 0 degré. Donc ça nous montre vraiment que en fait, ce manteau neigeux, il a un effet isolant. C'est-à-dire qu'on a une atmosphère assez froide, à moins 3. Cette nuit, c'était encore plus bas que ça. Et pourtant, le sol, il reste aux alentours de 0 degré. Et ici, en moyenne montagne, ça va rester à peu près à 0 degré pendant tout l'hiver. Et donc, du coup, le manteau neigeux, il va falloir faire une sorte de protection, d'isolation thermique pour le sol, qui du coup, va pas geler ici, dans cette portion des Alpes.
On a vu que la neige était un très bon isolant. Quand il y a un déneigement qui est plus précoce au printemps, du coup on va avoir parfois des gelées printanières qui sont transmises au sol plus tôt, ce qui peut tuer certains écosystèmes, certaines plantes. Et puis en moyenne, on va plus réchauffer le sol. Ça a un impact pour l'adaptation des écosystèmes à certaines zones d'altitude, donc des plantes. Derrière, ça a des impacts pour les autres écosystèmes et puis ça a aussi des impacts pour les risques naturels. en montagne à haute altitude, on a des sols qui restent gelés, qui s'appellent le pergélisol ou le permafrost en anglais. Ce gel, c'est ce qui va être le ciment de certaines parois rocheuses. Sous l'effet à la fois de l'augmentation des températures et de la raréfaction de l'enneigement, on a des changements de régime thermique du sol, un dégel de ce pergélisol qui va amener à des risques naturels, comme par exemple des éboulements rocheux qu'on observe de plus en plus. Et donc le réchauffement climatique, c'est une augmentation de la température de l'air globale qui va se répercuter au niveau local. À partir du moment où on augmente la température, même si on reste en dessous de zéro, on va accélérer l'évolution du manteau neigeux. Le fait que la microstructure elle va changer, elle va devenir de plus en plus grosse par exemple. Cette microstructure, quand elle devient plus grosse, elle va faire que la couleur de la neige elle va changer, ça va devenir un peu moins blanc. Quand on a une terre qui est blanche, avec beaucoup de neige, qui renvoie l'énergie du soleil vers l'atmosphère, du coup on limite l'absorption du rayonnement solaire et on limite le réchauffement. Par contre, plus la température globale elle augmente, moins on a de neige, plus la terre va devenir moins blanche, plus grise, plus elle va absorber l'énergie du soleil, et plus elle va se réchauffer. Et on a du coup un phénomène d'emballement que nous on appelle aussi rétroaction positive. Donc c'est une des raisons pour laquelle la neige est très importante pour le climat, bien au-delà des régions qui sont purement enneigées. La quantité de neige sur Terre, en gros, elle va avoir un impact sur la température globale, et pas seulement dans les Alpes ou dans l'Arctique ou en Antarctique, partout. On a beaucoup entendu que les glaciers, de toute façon, ils vont disparaître quoi qu'on fasse. C'est vrai pour une partie des glaciers, pas pour tous, parce que eux, ils ont une inertie. Ils vont réagir en fonction des conditions de l'année en cours, mais aussi de toutes les années précédentes. La neige saisonnière, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui n'a pas d'inertie. Elle réagit immédiatement aux conditions météorologiques de l'année en cours. Donc ça a une conséquence importante, parce que ça veut dire que le jour où on stabilise la température globale par des actions qui sont suffisamment fortes, le manteau neigeux, il va arrêter de disparaître. Il va juste se stabiliser à l'endroit où il est. Et c'est pour ça que c'est très important d'agir aujourd'hui.
Merci à Lara, Dédé et les militants d'Extinction Rébellion Mont-Blanc, à Marie Dumont, Kevin Fourteau, Oscar Dick, Aube Marula, Florent Jacquemou, Sandra Lison, Thomas Faucheur et Alain Boulogne. Documentation Annelise Signoret, Archivina Samia Jedi, prise de son Virginie Lorda et Romain Lenoir, mixage Manon Moussin, chargée de programme Marivona Bolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin. C'était Neige, écho d'une disparition. Troisième épisode, Poudre à canon. Un documentaire de Quentin Tenot, réalisé par Agnès Catou. Les pages web sont sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.